Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webcast de la Virtual Academy. Je m'appelle Sébastien Pertus, je fais partie de l'équipe des évangélistes Microsoft France et nous allons continuer aujourd'hui à parler d'accès aux données et notamment de la partie WCF. Alors, la dernière fois, on a vu comment faire pour configurer un serveur WCF à partir d'un host qui est une application cliente. On a écrit en code comment faire pour ouvrir le endpoint, ouvrir l'host, etc. On a vu qu'on pouvait faire de la configuration XMS qui est vachement plus sympa pour le déploiement en production, par exemple, et au niveau de la maintenabilité de vos serveurs. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va transposer notre serveur de type application vers un serveur web. Alors, comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Vous avez toujours à votre disposition, fourni avec le webcast, eh bien, le fichier Word qui explique tout ce qu'on va voir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va voir comment est-ce que l'on fait pour faire un serveur web. On va essayer un petit peu de personnaliser nos endpoint services avec ce qu'on appelle les behaviors, qui sont les comportements et la personnalisation des bindings. On verra un petit peu aussi ce qu'on appelle le Web HTTP Binding, qui est un peu particulier, qui permet d'exposer du JSON, qui est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, notamment quand on fait du REST. Et enfin, on parlera un petit peu de ce qu'on appelle des standard endpoints, qui permettent un petit peu de compacter un peu nos configurations qui ont tendance à devenir, avec WCF, assez verbeux. Voilà. Alors, avant toute chose, je vais passer sur mon écran pour vous montrer un petit peu la solution sur laquelle on va se baser. Donc voilà ma solution, hein, toujours pareil. Donc j'ai mon serveur, rappelez-vous, hein, qui expose mes endpoints WCF. Ces endpoints WCF, eh bien, ils sont ici. Donc un NetTCP, un Basic HTTP, un WSHTTP Binding. On avait déjà mis des behaviors, mais on y reviendra, qui sont pour exposer les métadonnées et le endpoint max, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà vraiment l'idée. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va de suite créer une nouvelle application, alors, qui est une application web, hein, puisque l'on veut exposer nos endpoints sous depuis un serveur web. Alors, moi, j'utilise le serveur web embarqué, qui est un serveur web 2JS Express. Alors, web serveur WCF. Hop, donc là, je pense que je suis bon au niveau du chapitre. Voilà. OK, select folder. OK. Donc, je vais faire un serveur web vide. Hein. On a besoin de rien de plus pour pouvoir exposer nos API WCF. Donc, ça, c'est OK. Voilà. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, eh bien, vraiment, c'est de le faire, comment dirais-je, de le faire vraiment à la mano. C'est-à-dire que vous allez voir que quand on fait du WCF avec un serveur web, eh bien, il y a beaucoup de génération de code qui est fait par Visual Studio. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de le faire comme on l'a fait au tout départ avec WCF sur les premiers chapitres, vraiment de le faire de bout en bout en codant à peu près tout. Et après, vous verrez que les wizards de Visual Studio permettent de tout prendre en charge par la génération de code et vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça. Mais ce qui est bien, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais vraiment le faire par code au départ. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Donc, globalement, quand on veut exposer un serveur WCF par code, eh bien, ce qu'on fait, on a besoin. Alors, rappelez-vous, on a besoin, comme dans le serveur version Windows Form, si je reprends ici mon serveur, on a besoin de créer quelque chose qui permette d'ouvrir un host et de le garder ouvert. Alors, pour ça, eh bien, on va rajouter ce qu'on appelle un service, une page web, qui est une page SVC. Alors, comme j'ai dit que j'allais le faire globalement sans passer par les wizards, eh bien, ce que je vais faire directement, je vais rajouter ici une page de type texte, text file, que je vais appeler product provider. Et je vais donner une extension .svc. Alors, l'extension .svc, c'est juste parce que Visual Studio connaît l'extension et le serveur 2JS Express aussi connaît l'extension. Mais pour l'instant, j'ai rien fait d'autre, j'ai une page qui est plutôt blanche. Pour fonctionner, eh bien, c'est pas bien compliqué. On va écrire directement ici une directive. Alors, avant de faire ça, je vais évidemment faire une référence à mon projet, à ma solution qui est WCF Services, pour pouvoir y avoir accès. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc oui, ici j'ai ma référence qui a dû apparaître, voilà, qui est fait. Je vais juste compiler pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. En attendant, je vais juste lancer Zoomit qui va me permettre de faire des zooms si jamais il y a besoin. Voilà qui est fait. Ok. Donc à partir de là, donc je reviens sur mon fichier SVC. Donc ce que j'écris là, vous allez voir que vraiment on va. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez quand même l'intellisense, mais vous verrez qu'après on a des wizards qui permettent d'automatiser tout ça. Il faut vraiment pas se formaliser pour ça. Donc je vais donc faire un service host et je vais lui dire d'exposer le service qui s'appelle wcfservices.productprovider. Voilà. Juste en ayant écrit ça, en fait, juste en ayant écrit ce petit morceau de code, vous voyez, qui ressemble un petit peu à du code ASP, eh bien, automatiquement, j'ai fait exactement la même chose que si j'avais écrit dans ma page Windows Form d'un serveur client lourd, le host égale new service host. Et quand je vais appeler ma page web SVC, automatiquement, il va faire le host.open. Vous voyez, donc c'est vraiment pas très très compliqué. Et après, ce qu'on va faire, eh bien, il faut aussi que l'on remplisse le fichier de configuration pour pouvoir mettre notre fameuse configuration de type service modèle. Donc rappelez-vous, cette configuration, c'est celle-ci. Donc globalement, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste prendre tout ce que j'ai dans le service modèle, copier-coller. Ah, il faut aussi la chaîne de connexion, sinon je vais avoir du mal. Ah non, non, la chaîne de... si, si, la chaîne de connexion, parce qu'il faut que je la transmette à mon service. Donc je prends tout ça et je vais le copier ici, dans configuration. Copier-coller. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir quand on fait un serveur web, c'est que lorsque l'on travaille avec 2IS Express, eh bien, on ne peut pas exposer de endpoint de type NetTCP. Il faut passer sur un vrai serveur 2IS, enfin, un vrai serveur, sur un serveur 2IS qui est installé en local, qui est au moins du 2IS 7 de mémoire, sur lequel on peut activer les extensions de NetTCP. Par contre, sur un serveur 2IS Express qui est embarqué avec Visual Studio, on ne peut exposer que des endpoints de type HTTP. Donc, on va revenir sur notre code. Et ce que je vous propose de faire pour l'instant, c'est d'enlever ce NetPoint NetTCP parce qu'on ne va pas
Autre chose
pouvoir
locale
l'exposer. À remarquer, c'est l'utilisation de la base adresse. Vous voyez qu'ici, on est sur un serveur web, donc l'adresse de base, c'est celle qui est fournie par le 2IS Express. Donc, cette base adresse, finalement, on n'en a plus vraiment besoin. Donc, ça aussi, je peux le mettre en commentaire. Et enfin ici, le Basic HTTP Binding et le WS HTTP Binding que j'ai exposé, et je mets un slash productprovider.svc, mais le .svc, on l'a ici. Donc ce qu'on va faire, on va juste au final changer le type d'adresse et mettre plutôt quelque chose comme ça. On va mettre par exemple slash basic et slash WS. Voilà. Donc du coup, j'aurai une adresse qui ressemblera à mon host 2IS Express, slash productprovider.svc, slash basic. Voilà un petit peu l'idée. Donc à partir de là, on n'est pas trop mal. Donc vous voyez qu'au niveau code C-Sharp, on n'a rien écrit de particulier. Hein. Je vais juste builder, puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc si ici, si je mets View in Browser de mon Product Provider, eh bien, vous voyez que j'ai bien effectivement une adresse WSDL qui fonctionne. Et si je regarde en bas les endpoints exposés, eh bien, vous voyez que j'ai bien localhost. Blablabla, slash basique et slash WS pour l'endpoint de type WS HTTP binding. Donc tout ça fonctionne plutôt bien. Je vais aller un petit peu plus loin, juste pour le fun, pour vous montrer quelque chose qui est assez marrant. C'est que regardez bien, si jamais je mets tout ça en commentaire, vous allez me dire c'est bizarre parce que du coup, j'ai plus rien d'exposé dans mes services. Voire même, je vais même mettre ça, le service carrément ici. Je vais tout mettre en commentaire. Voilà. Donc vous allez me dire, globalement, j'ai plus rien exposé. Et vous allez voir que même si je fais ici View in Browser, eh bien vous allez voir que ça va continuer à fonctionner. Donc d'abord, si j'ai toujours un WSDL qui est affiché. Et vous voyez qu'en bas, j'ai quand même quelque chose qui est exposé, qui est un basic HTTP binding qui est exposé sur l'adresse par défaut. Et pourtant, sur mon serveur web, je n'expose plus aucun endpoint. Pourquoi? Bien, je vais vous montrer. Je vais passer par le WCF configuration. Vous avez ici des instructions par défaut. Donc, on les trouve dans le protocole mapping ici, qui dit globalement, si vous exposez des endpoints WCF et que vous ne donnez pas de endpoint particulier, eh bien, par défaut, je vais prendre en HTTP, le basic HTTP binding, en NetMSMQ, le NetMSMQ binding, en NetPipe, le NetNamePipe, et en NetTCP, le NetTCP binding. Globalement, ça c'est une nouveauté de WCF4, si vous n'exposez pas vos endpoints explicitement, et eh bien implicitement, vous allez exposer ce type de binding. D'ailleurs, vous pouvez le changer d'ailleurs. Si vous trouvez que le basique HTTP binding n'est pas celui que vous devez avoir par défaut, vous pouvez par exemple très bien spécifier que par défaut, vous voulez que ce soit du WS HTTP binding. Et vous allez voir ce que ça fait. Donc je vais sauvegarder, File, Save. Voilà. Vous allez voir qu'automatiquement dans votre fichier configuration, il a rajouté ici, alors il faut que je le trouve, ou en bas. Alors non, il l'a rajouté. Voilà, c'est un protocole mapping ici. Automatiquement, il rajoute ça. Et il dit globalement, si jamais tu appelles une adresse HTTP et que tu n'as pas spécifié de endpoint particulier, je fais du WS HTTP binding. Donc ce qui est mon cas ici, puisque je n'ai rien spécifié, tout est dans mon commentaire. Et si, alors je vais recompiler. Je vais donc lancer Product Provider, View in Browser. Et si je veux revoir encore le WSDL, vous allez voir qu'en bas, du coup, mon endpoint par défaut qui est exposé, c'est bien du WSHTTP binding. OK? Donc ça, c'est assez intéressant de le savoir. Bon, je ne vais pas passer par les protocoles mapping. Je vais revenir à ce que j'avais avant, c'est-à-dire au moins avoir deux endpoints. Donc ça, je le mets en commentaire, on n'en a pas besoin. On a dit que le net TCP, on est d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas supporté sur 2x Express. Ça, le MEX, j'en ai pas besoin non plus. Je vais donc garder mon basique HTTP et mon WS HTTP binding. Et du coup, lorsque si j'expose mes données, ça doit fonctionner. Je reviens sur un état standard pour être sûr. Hop, je regarde mon WS HTTP binding. OK. Bien. Maintenant, je vais regarder mon côté client. Alors, mon côté client, donc c'est une application classique. Vous voyez que dans le fichier configuration, j'ai rien. Hein. Je vais donc maintenant rajouter ma service référence. Discover, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a vu qu'il y avait un SVC dans un de mes projets de ma solution, donc automatiquement, il me l'a rajouté. Donc, je vais faire WCF Server Proxy. Et là, c'est la même chose que d'habitude, hein, rien de bien particulier. Je fais un OK, vous allez voir qu'automatiquement, il va me générer le proxy. Et ça va fonctionner. Vous allez voir qu'automatiquement, il va me remplir le fichier configuration à ma place. Vous voyez qu'automatiquement, il me génère un basic HTTP binding, un WSHTTP binding. Et que ça fonctionne comme ce qu'on a l'habitude de voir. Sauf que maintenant, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment hébergé dans un serveur web. Au niveau de mon code, eh bien, mon code reste le même, hein, donc je l'avais déjà écrit pour aller plus vite. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours l'utilisation de mon product provider client. Attention, c'est plus du net TCP binding puisqu'on a vu qu'on ne l'exposait pas. On va prendre le basic HTTP binding qui est ici. Et après, au niveau de l'utilisation, c'est plutôt du standard. Et je vais donc juste vérifier que ça fonctionne. Et c'est parti. Alors, donc, je vais appuyer sur récupérer. Il va donc m'instancier mon product provider, récupérer l'ensemble des enregistrements de la base de données côté serveur. Et voilà, 77. Et récupérer le nom du premier produit. OK, c'est bon. Donc, à partir de là, nous avons bien réussi à exposer nos données côté serveur avec un binding, avec deux bindings qui sont donc le basic HTTP binding. Et le WSHTTP binding avec deux adresses qui sont légèrement différentes. Voilà. Bien. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Globalement, nous avons vu ça. Ok, je reprends mon fichier Word pour être sûr. Alors, ce qu'on peut regarder effectivement, c'est la personnalisation. Alors, la personnalisation, on en a un petit peu parlé. Vous avez une personnalisation qui est au niveau de ce qu'on appelle les comportements, donc ce qu'on appelle les behaviors. Alors, on a déjà un petit peu fait de la personnalisation, hein, puisqu'on a déjà travaillé sur le fait que l'on puisse exposer des métadonnées directement depuis un browser. Vous avez d'autres types de configurations que l'on peut utiliser, qui sont par exemple ce qu'on appelle le service throttling ici, qui permet globalement de dire combien est-ce que je peux faire de calls concurrents ou combien est-ce que je peux faire d'instances maximum lorsque je travaille en WCF. Voilà. Donc ce sont le genre de behavior que vous pouvez mettre en place. Un behavior, on peut le nommer. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien lui mettre un nom ici, que j'appellerai B1, et après dire sur mes endpoints que je n'utilise que ce behavior-là. D'accord? Donc, voilà, c'est le behavior configuration, on va dire qu'on va utiliser le B1, par exemple. Okay. Voilà le genre de choses que l'on peut faire sur la configuration. L'autre chose que l'on peut faire aussi, c'est configurer mon binding. Donc ici, pour avoir un peu plus de souplesse. Donc on va ici dans les bindings. Vous voyez que moi, j'ai déjà des configurations que j'avais mis en place, notamment sur la sécurité. Alors je vais juste fermer le net TCP pour ne pas nous embrouiller. Et alors globalement, ici, j'ai mis une sécurité anon pour ne pas être embêté par mon token AD, puisque je ne suis pas sur mon réseau d'entreprise. Mais un binding, vous pouvez customiser beaucoup, beaucoup de choses. Alors souvent, ce que l'on fait dans ce genre de choses-là, c'est lui dire que je peux, par exemple, faire un buffer size qui soit plus important que celui par défaut, qui est, je crois, de 65 et quelques. Donc ici, je peux mettre du 65, etc., pour avoir un buffer beaucoup plus important. Aussi, souvent sur la taille du message reçu, quand on a des énormes collections qui transitent, eh bien, ce serait pas mal aussi de mettre une taille supérieure à celle qui est par défaut. Donc voilà le genre de choses que je peux utiliser pour customiser un petit peu mon binding. Et après, ce qui est bien, c'est qu'aussi, je peux lui donner toujours pareil un nom, hein, qui est donc ce qui serait donc alors je vais appeler basique. Basique HTTP max size, on va dire. Ok, et globalement, ce basique HTTP, je peux l'utiliser pour ici ma configuration. Donc, ma configuration, c'est le binding configuration ici, qui me le propose dans l'intelligence. Voilà. Donc, si jamais vous voulez que ce binding soit appliqué à tous les bindings de type basique HTTP binding, vous ne lui mettez pas de nom. Hein. Voilà, globalement, un petit peu ce que j'ai fait. Donc au niveau des behaviors et au niveau des bindings, vous pouvez customiser pas mal de choses. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est un endpoint un petit peu particulier, qui est ce qu'on appelle le endpoint de type web HTTP binding. Donc je vais le créer. Donc c'est un endpoint de type web HTTP. Alors pardon, de type. Alors je vais mettre un binding égal. C'est un web HTTP binding. Voilà. Web HTTP binding, vous allez voir qu'il est très très bien parce qu'il va nous permettre et eh bien d'exposer nos données sous format REST name égale, alors je prends le même nom, hein, toujours pas s'embêter. Voilà, je vais lui donner mon contrat, contract. Donc c'est toujours pareil, c'est le WSFC Product Provider, et je vais lui donner une adresse qui sera donc slash, je vais appeler REST. Voilà. Et je vais fermer. Alors, par contre, ce endpoint est un petit peu particulier parce qu'il ne peut fonctionner que s'il a effectivement un behavior associé. Donc, c'est behavior associé, donc c'est pas un behavior de type service, c'est un behavior de type endpoint. Donc, je vais créer mon endpoint ici et c'est ce qu'on appelle un behavior. Donc, je vais l'appeler, donc c'est un behavior, je vais l'appeler name. Behavior, je vais l'appeler name égale web HTTP behavior. Voilà. Et ce behavior, c'est un type web HTTP. Alors là, il n'y a pas grand-chose à configurer. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre le help enable égale true. Il est différent du help get enable égale true ici. Je vais vous montrer après à quoi ça sert. Et après, je vais lui dire aussi, alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est de lui dire que la réponse par défaut, et c'est là que c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de behavior pour le web HTTP endpoint, c'est de dire quel est le format par défaut de la réponse que je vais envoyer. Donc, je vous propose qu'on fasse du JSON. Vous allez voir que c'est assez sympa. Je vais après donc lui dire que ce web HTTP behavior, c'est la configuration par défaut. Donc, pour utiliser ça, donc on fait behavior configuration name égale web HTTP behavior. Et après, je vais aussi avoir mes problèmes de sécurité puisque je ne suis pas sur mon réseau. Je vais donc créer ici pareil un web HTTP binding. Hop, binding. Hop. Et je vais lui dire security mode égale none. Voilà, donc je pense que j'oublie rien. Alors je pourrais aussi mettre max buffer size, etc. pour être pas embêté si jamais j'ai des gros messages à transiter. Bref, et donc j'ai pas besoin de le spécifier ici. Alors toujours pareil, si j'avais mis un nom ici, name égale, hop, je vais y arriver, web HTTP binding XL. Voilà, je vais donc le mettre ici. Donc là, c'est binding configuration égale web HTTP binding XL. Bien, à partir de là, je vais donc exposer mes données sous format REST. Le problème quand on fait du REST, rappelez-vous lorsqu'on avait utiliser cette configuration pour nos précédents exemples, eh bien, il fallait absolument mettre une adresse particulière. Quand on attaque du REST, il faut l'adresse web, slash, par exemple, l'entité que je veux attaquer, et la méthode. Donc ça, ce n'est pas exposé dans les métadatas, ce qui est une particularité de REST, tant qu'on n'aura pas fait du OData. Donc il faut qu'on spécifie sur chacune de nos adresses comment est-ce que ça va se passer. Alors pour ça, eh bien, il faut aller ici dans chacune de mes méthodes qui se trouvent ici, et il faut que je lui rajoute comment est-ce que je vais pouvoir appeler ce getProductCount quand je fais du web HTTP binding. Donc pour ça, il faut que je vérifie que j'ai l'ensemble de toutes les méthodes. Donc pour ça, il faut que je rajoute une référence à service modèle. Hop là, je vais pas me tromper. Ok, dans Assembly, service modèle. Et ici, il faut que je rajoute la référence sur system.servicemodel.web. Ok. Ce qui me permet globalement d'avoir quoi? D'avoir ici ce qu'on appelle WebGet. Alors, je suppose qu'il faut que je rajoute le using qui va bien. Voilà. WebGet. Alors, le WebGet, c'est quoi? Ça permet globalement de spécifier quel type d'adresse je peux utiliser pour attaquer cette méthode en REST. Donc, je vais mettre URI template égale. Et donc, je vais dire, par exemple, pour celle-là, que ça sera le slash count. Slash count. Et voilà. Après, je pourrais aussi spécifier quel est le type de réponse que j'attends. Donc, ça, c'est pas très compliqué. C'est le request format. Pardon, response format égale, donc c'est du web message format, hop là, web message format point, alors gestion de XML, mais comme on l'a fait dans le fichier configuration, j'avais pas besoin. Voilà, donc ça va très vite. Et je vais faire ça pour l'ensemble de mes méthodes. Donc ici, je vais faire web slash, on va dire slash product. Et après ici, ça sera. Alors pour le add product, ce n'est pas un webget, puisque le webget, vous savez que c'est pour faire des requêtes de type get, donc dans l'URL. Là, il faut que je fasse plutôt un post, et donc là, je vais passer par un web invoke. OK, et à ce moment-là, je vais dire que URI template, ça sera plutôt URI template, ça sera égal slash, on va dire add product. Voilà. Donc là, vraiment, c'est décorer mes méthodes pour avoir une URL que je puisse appeler. Donc ça, c'est vraiment très particulier quand on fait quand on essaie de mettre en place du REST. Ok, à partir de là, donc j'ai fait les trois choses qui étaient importantes, c'est-à-dire créer mon endpoint web HTTP binding, bien lui mettre la configuration qu'il y a derrière. Il n'y a donc plus qu'à tester voir si notre endpoint REST exposé à mon donné en JSON fonctionne. Donc ce qu'on va faire ici, on va build et on va aller voir un petit peu ce que va exposer dans notre browser, notre endpoint. Alors, d'abord, vous voyez que j'ai toujours mon WSDL. Après autre chose, quand je vais regarder le WSDL généré, vous voyez qu'ici, j'ai que deux endpoints qui sont affichés, qui sont le basique et le WS. Pourquoi? Bien parce que tout ce qui va être REST n'est pas normalisé comme SOAP, donc il n'est pas exposé sur le WSDL. Donc il faut connaître l'adresse ici, qui s'appelle donc slash REST, et vous avez ce qu'on appelle dans cette donc lorsque j'appelle la page, eh bien vous n'avez pas de service exposé particulier. Mais ce qu'il y a, c'est que dans notre fichier de configuration, on a mis ici que l'on veut le help enable. Et le help enable, il permet de quoi? Il permet d'appeler ici une page slash help qui va nous montrer au moins les méthodes qui sont appelables avec la description. Donc vous voyez ici cette méthode-là, elle s'appelle blablabla slash point svc slash rest slash count, et vous avez même ici, alors c'est du post ou du get, hein, donc tout ce que spécifie la norme REST, et voilà globalement ce qu'on est capable de faire. Donc si j'appelle directement cette méthode, eh bien vous allez voir qu'automatiquement je vais récupérer eh bien un appel vers notre serveur web qui va me renvoyer un fichier JSON. Je vous montrer à quoi ça ressemble, et vous voyez qu'ici vous allez directement récupérer le 77. Si après je fais la même chose sur. Alors moi ce que j'utilise en général pour faire des appels REST, j'utilise un outil qui s'appelle Postman, que vous pouvez récupérer. Donc Postman me permet d'avoir ici ma requête, de pouvoir l'envoyer et de récupérer ce qu'il y a derrière. Donc ça me permet de faire des requêtes REST assez facilement. Et si je fais aussi slash product, vous allez voir que je vais récupérer sous format JSON l'ensemble de mes produits. OK? Voilà. Voilà globalement comment est-ce qu'on fonctionne pour pouvoir mettre en place un endpoint de type Web HTTP Binding dans une
Alors, vous
configuration.
voyez
Au niveau configuration, ne serait-ce que quand on veut utiliser du Web HTTP Binding, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a déclarer le endpoint, déclarer le service, déclarer le binding associé, si jamais il y a besoin de paramètres de sécurité, et déclarer le behavior. Bref, tout ça est relativement verbeux. Il est apparu une nouveauté qui permet de simplifier grandement tout ce mécanisme. Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle les standard endpoints. Les standard endpoints, c'est quoi? Ça permet d'avoir une seule partie dans votre configuration pour pouvoir déclarer tout ça. Hein, c'est vraiment pour pouvoir mutualiser, pour pouvoir vraiment simplifier votre configuration web. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir qu'on va enlever pas mal de choses. Donc, pour éclaircir un petit peu, je vais enlever tout ça. Je vais juste garder le Web HTTP Binding pour vous montrer la différence. Donc, voilà comment est-ce que l'on écrit normalement un Web HTTP Binding si jamais on a besoin de rien de plus. Voilà, ça, je peux l'enlever par exemple. Voilà globalement ce dont on a besoin au minimum pour pouvoir fonctionner. Je vais enlever aussi le binding ici. Voilà. Donc, pour pouvoir fonctionner un Web HTTP Binding, on a besoin de faire cette déclaration-là dans Binding. La déclaration du endpoint et la déclaration du behavior. Et bien tout ça, vous allez voir qu'on va pouvoir grandement le simplifier. Comment est-ce que ça marche? On va faire ce qu'on appelle les standard endpoints. Les standard endpoints, on va les déclarer. Donc c'est une nouvelle. Alors je vais fermer, collapser. Donc vous avez les services, les bindings et les behaviors. Mais vous avez une nouvelle section qui s'appelle les standard endpoints. Les standard endpoints, ça permet vraiment de faire une configuration globale. Donc on va travailler sur les web HTTP endpoints. Puisque c'est ce qu'on veut faire. On va donc créer un nouveau standard endpoint donc sur lequel je vais pouvoir spécifier un petit peu tout ce que je veux. Donc rappelez-vous, on avait surtout mis globalement qu'on voulait la réponse sous format JSON. Rappelez-vous, on avait mis aussi qu'on voulait le max buffer pool. Vous voyez qu'on retrouve un petit peu la même chose, 65 000. Et on va vers aussi le max resize de message size, 65 000 par exemple. Voilà, en fait, tout ce que l'on a fait dans différentes sections, on l'a fait dans une seule section qui est le standard endpoint. Et on avait aussi mis le help enable, pardon, égal true. Et après, on avait aussi spécifié la sécurité qui est égale à mode, égale non. Voilà, donc vous avez vraiment une section qui permet vraiment de spécifier tout ce qu'on a fait dans les autres sections et globalement. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa à utiliser. Donc du coup, ici, ce behavior-là, tout ça, je peux l'enlever. OK. Et ici, dans les bindings, tout ça, je peux l'enlever. OK. Et après, dans mon service, il faut quand même exposer le service, au moins pour avoir l'adresse. Donc ici, globalement, je vais enlever tout ça. Hop. Je vais juste laisser le binding, le nom, à la rigueur, j'en ai pas besoin. Le contrat, c'est OK. Donc vraiment, c'est les trucs de base, donc le fameux ABC. Et on va lui dire d'utiliser un endpoint standard. Donc ce endpoint standard, il faut que je lui dise vraiment de dire, alors c'est par le mot-clé kind qui s'appelle web HTTP endpoint qui est déclaré juste en bas. D'accord? Donc vraiment, on a quelque chose de beaucoup plus simple finalement. Regardez un petit peu le nombre de lignes. Alors il y en a toujours un petit peu, certes, mais le nombre de lignes que j'ai qui est donc beaucoup plus compact. Je déclare mon standard endpoint et je déclare mon service avec juste finalement ce qui est important, c'est le ABC. À partir de là, vous allez voir que si je fais un view in browser de mon product provider.svc, alors évidemment là pour l'instant, je n'ai pas de metadata publiée puisque je les ai enlevés. Mais si je reviens sur mon REST et sur mon fenêtre help, eh bien j'ai exactement la même chose que tout à l'heure. Et je suppose que si j'appelle eh bien avec Postman l'URL que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir que ça va fonctionner aussi. Elle est ici. Donc je l'ai déjà de tout à l'heure. Je refais un GET. Donc on attend qu'il génère les proxys, etc. etc. Et voilà, j'ai bien tout récupéré. Bon, le standard endpoint, vraiment quelque chose d'assez sympathique à utiliser parce que ça permet de se simplifier pas mal la vie au niveau de la configuration. Mais c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment deux façons de voir. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est juste avant de terminer ce webcast, c'est de vous dire que REST, c'est très bien, mais vous n'avez pas de. C'est une architecture REST, c'est vraiment un système d'exposition de ressources. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est pas nomenclaturé. Si on fait du REST comme ça, vous allez voir que si vous essayez de générer le proxy côté client avec les outils Visual Studio, eh bien, il ne vous générera pas de code parce qu'il n'est pas capable de savoir à quoi ressemblent mes services REST, si ce n'est l'URL avec le slash help, donc l'URL slash help, mais il n'est pas capable de savoir quel est le type d'entité, quels sont les paramètres qu'il faut qu'il fournisse, etc. Donc, on verra dans un prochain webcast qu'on va aller encore un petit peu plus loin que l'exposition de l'endpoint au format JSON en travaillant avec une spécification qui s'appelle OData et le SDK qui a été créé à cette occasion par les équipes MS qui s'appelle WSF Data Services. Donc ça sera dans le dernier webcast consacré à cette série. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et à bientôt.